Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ils sont assyro-chaldéens, syriaques, arméniens, maronites, coptes. Ce sont les plus connus des minorités chrétiennes du Moyen-Orient. Et puis il y a aussi les yézidis que le monde occidental devait découvrir le tragique été 2014 avec la conquête par l'État islamique de la plaine de Ninive. Ce sont à toutes ces minorités du Moyen-Orient que nous allons nous intéresser dans Religion du monde ce dimanche avec notre invité Tigrane Yegavian, journaliste, essayiste, arabisant, spécialiste de ces minorités de par ses études et son histoire familiale et qui signe aux éditions du Rocher « Minorités d'Orient, les oubliés de l'histoire ». Tigrane Yegavian, bonjour.
Bonjour.
On va beaucoup parler d'histoire avec vous car c'est le point fort de votre livre, un livre très documenté qui revient sur un siècle et même un peu plus de l'histoire de ces grands oubliés et plus encore de ces grands perdants, hein, de l'histoire de ces communautés minoritaires en terre d'islam, communautés souvent trahies par l'Occident en lequel elles voyaient un protecteur. Je pense aux Arméniens et aux Assyro-Chaldéens broyés dans le génocide de 1915 et aussi lâchés au sortir de la Première Guerre mondiale. Et puis, si l'on regarde l'actualité toute récente, il y a les Kurdes hein, qui ont combattu l'État islamique, qui ont perdu 11 000 personnes, 11 000 combattants, et que Donald Trump laisse seul en retirant les troupes américaines de la région et en laissant la Turquie s'installer par les armes sur la bande frontalière avec la Syrie. C'est à tout cela que nous allons nous atteler, si je puis dire. Tigrane Yegavian, l'actualité aujourd'hui résonne toujours, c'est un miroir de l'histoire.
Absolument, l'histoire bégaye en fait. Et c'est vraiment ce que j'avais en tête lors de la rédaction du livre, que lorsque les journalistes font du terrain, font des reportages sur les exactions en cours en Irak, dans cette région marquée par le sceau de la barbarie et de la terreur, rares sont les analyses historiques car on est dans le règne de l'immédiateté. Et il faut comprendre que dans cette région, l'histoire se répète inlassablement et que les leçons ne sont toujours pas prises de part et d'autre.
En 2014, ce terrible été 2014, avec le massacre, on peut le dire, des yézidis.
Génocide même.
Génocide.
Dire génocide.
Ces chrétiens qui sont obligés de fuir en pleine nuit, faire des kilomètres, etc. Ouais. Vous dites finalement, c'est 1915, c'est le génocide des Arméniens qui se répète.
Bah, disons, c'est à peu près le même mode opératoire qu'on a pu constater dans le cas des yézidis.
Mais oui, sur un chiffre, bien sûr, évidemment, très différent.
Ce qui était assez troublant, c'est qu'on est sur les mêmes lieux de la catastrophe et que, vraisemblablement, l'Empire ottoman n'a pas fini d'agoniser, puisque le déclin de l'Empire ottoman se caractérise par une politique d'ingénierie démographique, d'extermination de tout l'élément non musulman, et que quelque part, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans le nord de l'Irak, mais aussi dans le nord-est de la Syrie, puisque quand il y a des populations qui ne plaisent pas au sultan Erdogan, on n'a qu'à les déplacer ou remplacer par d'autres populations. Donc on a vraisemblablement une certaine résonance avec le passé.
Alors, la première partie de votre livre, Tigrane Yegavian, donc les minorités d'Orient, les oubliés de l'histoire, cette première partie, bon, c'est un point hein, assez classique, j'allais dire. Voilà, que reste-t-il 7-8 ans après les printemps arabes des chrétiens d'Orient et puis aussi un siècle après
J'ai voulu faire le point sur la situation déjà, car il y a eu beaucoup d'émotions en 2011 lorsque, je préfère le terme soulèvement populaire arabe que printemps arabe.
Vous n'aimez pas printemps arabe, ce terme, oui.
On essaimait dans toute la région. Beaucoup de chrétiens ont participé à ces mouvements, mais vraisemblablement, ils ont été rattrapés par les frères musulmans, par les islamistes. Et on voit bien que malheureusement, la société dans ces pays-là, les sociétés civiles sont très fragiles et les chrétiens n'ont plus de voix au chapitre. Mais ce que je voulais aussi dire dans cette séquence, c'est que même s'il y a beaucoup de discours de Cassandre qui disent que les chrétiens vont disparaître, que c'est une question de temps, que leur disparition est programmée, or, il faut constater que si, proportionnellement parlant, ils pèsent bien moins par rapport au début du XXe siècle où ils étaient à peu près 30% de la population de l'Orient. En nombre absolu, ils sont plus nombreux.
Pourquoi ?
Vous avez l'exemple des Égyptiens, notamment des Coptes égyptiens, qui constituent le véritable réservoir démographique de la chrétienté d'Orient. Et donc, il est évident qu'en Irak et en Syrie, bien entendu, il y a une vraie hémorragie. Il ne faut pas non plus désespérer de l'avenir.
Il faut quand même, Tigrane Yegavian, rappeler les chiffres. Hein. L'Irak a perdu 2/3 de ses chrétiens, même peut-être plus. Il en reste plus quelques centaines de
milliers. Ils étaient 1,5 million en 2003. Aujourd'hui, s'ils sont 300 000, c'est déjà beaucoup.
Quelques 300 000. La Syrie, la moitié.
La moitié, à peu près.
À peu près, ils sont 700 000 à être restés.
Un peu moins.
Un peu moins même. Voilà, bon.
Sur les 1,5 million en 2011, ils sont à peu près 500 000.
Bon, alors, le Liban, c'est une autre histoire. Il y a eu la guerre de 1975 à 1990. Un gros tiers contre, c'était à peu près 55%.
En 1932, dernier recensement en date.
Bon, alors, pour la Turquie, il n'y a quasiment plus de chrétiens.
La Turquie, ils ont réussi le travail, on va dire, en quelque sorte. Oui.
Il n'y a plus de chrétiens en Turquie. Enfin, c'est vraiment
une goutte d'eau.
À l'état résiduel. Absolument. Bon, de tout ça, c'est quand même une réalité. Or, ce que l'on souligne souvent, c'est que les chrétiens sont un pont, ont un rôle de pont entre l'Orient et
l'Occident. C'était le cas par le passé. Ils étaient des vrais médiateurs entre l'Orient et l'Occident, des passeurs qui ont transmis tout un trésor, hein, d'héritage. Ça remonte au Syriaque. On va pas faire un cours d'histoire, mais aujourd'hui, je crois que cette caractéristique n'est plus pertinente quand on parle des chrétiens d'Orient. Je pense qu'ils sont complètement marginalisés de tout un pan, en fait, de ces sociétés. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est être citoyen ou être rien du tout, puisque on est encore dans la perpétuation du système du millet ottoman. Le millet ottoman, c'est-à-dire ce système qui régit les communautés. Vous avez des protégées par le pouvoir, mais qui ne bénéficient pas d'autonomie. Donc, ce système du millet, il est anachronique. Il s'est perpétué donc dans la plupart des pays de la région. Et la question, l'enjeu aujourd'hui, c'est de plus penser en minorité. C'est se penser en citoyen. Et c'est vraiment un défi qui est excessivement difficile à tenir.
Et d'ailleurs, ce que me disait un jour un chrétien d'Orient, c'était qu'il fallait sortir de sa tête, en quelque sorte, l'esprit de dimitude qui est incarné, qui est en vous.
Oui, parce qu'il était intériorisé par des siècles de servage, vu que c'était le cas dans l'Empire ottoman. Il n'y avait pas d'égalité, et c'est pour ça que ça a été excessivement compliqué. On voit bien le génocide arménien, c'est l'aboutissement de cet échec de l'intégration de la citoyenneté de tous les sujets, toutes confessions confondues, dans le cadre d'une constitution qui était inapplicable. Il y avait un décalage abyssal entre ces élites européanisées de Constantinople et puis la réalité de ce qu'on appellerait le pays réel, enfin le pays anatolien. Donc oui, bien sûr.
Alors on va commencer avec vous, Tigrane Yegavian, par les printemps arabes. Hein. Le terme, vous n'aimez pas, vous allez nous dire pourquoi. Et puis, nous allons dérouler, si je puis dire, le fil à la pelote en arrière pour arriver à un siècle avant, effectivement, où on voit bien que tout se joue pour les chrétiens d'Orient, tout se joue dans le mauvais sens. Ils vont être les perdants d'histoire. On a récemment...
Même trahi,
absolument. On a récemment commémoré la guerre de 14-18. Là, on va entrer, on va en parler, dans la période des traités qu'ont suivi la guerre de 14-18, les traités 1920, 1922, où, à chaque fois, on peut dire, les Arméniens, les Assyro-Chaldéens vont perdre. Bon, mais déjà, commençons par cette période de 2011. Là, les chrétiens vont être aussi les perdants ? Ou pas plus que les autres?
Disons que je crois que les chrétiens de Syrie notamment, parce que moi j'ai vécu en Syrie, donc à cette époque-là j'étais en Syrie, il y avait un décalage abyssal déjà entre les chrétiens des zones urbaines, de Damas et Alep, qui étaient des villes où il y avait une vraie coexistence, où il y a une vraie aspiration à la justice sociale, une vraie demande de justice et d'égalité, de liberté, bien entendu de liberté, et qu'il y a eu une euphorie qui a été vraie, et je me rappelle des premiers slogans en 2011 qui appelaient à la concorde islamo-chrétienne, où tout, même des chrétiens pouvaient se réfugier dans les mosquées pour éviter d'être arrêtés par la police, mais qu'au bout de quelques mois, on déchante très rapidement et que les jeux sont faits très vite. On voit très bien la tournure que vont prendre les choses et que cette opposition-là, en fait, elle veut certes le changement du régime, mais pour le remplacer par un autre régime, en fait. Pas la démocratie, mais un autre régime encore plus obscur et plus répressif.
Vous estimez que la France a mal joué lors de la crise syrienne, entre autres, mais que la France a mal joué, que des hommes comme Béchar Araï, donc le patriarche maronite, qui lui incitait les partis en conflit à se parler et à parler au gouvernement syrien, à la famille Assad, que cette ligne n'a pas été suivie, car on ne parle pas avec un dictateur, hein, c'était la ligne française, hein, pas que la ligne française d'ailleurs, et vous estimez que ça, ça a été une erreur.
Oui, la France a quelque part péché par idéologie, par l'aspiration à un certain idéal et par un aveuglement funeste.
Droit de l'hommisme, vous parlez.
Droit de l'hommisme, oui. Et surtout, l'erreur fatale, c'est de ne pas avoir écouté même les analyses de leurs propres diplomates, parce qu'il faut croire que l'ambassadeur de France à Damas en 2011, Dominique Chevalier, pour ne pas le citer, faisait des rapports excessivement lucides sur le cours des choses et qui n'ont pas été, ces rapports, ces informations qui remontaient n'ont pas été prises en compte. Donc oui, il y a un aveuglement et malheureusement, et il faut le reconnaître, la France est non seulement est inaudible, mais elle est sortie du jeu syrien complètement et on voit bien qu'il y a une vraie perte d'influence. Et ce qui est malheureux à dire, c'est parce que non seulement en perdant cette influence, c'est aussi le français qu'on perd, la francophonie, c'est tout son prestige, son rayonnement auprès de ces communautés chrétiennes qui ne se reconnaissent plus dans cette France, mais aussi musulmanes par ricochet, qui avaient une vraie vénération pour la politique du président Chirac, qui était très très populaire dans tous les pays du bassin méditerranéen.
Vous écoutez Relire du Monde, notre invité est Tigrane Yegavian. Votre livre fait manifestement, très clairement, dialoguer l'histoire, hein, le présent et le passé. Voilà. Quand on relit ces années 1920, on a l'impression que le manque de discernement existait largement déjà et que ce manque de discernement a été à l'origine, entre autres, du malheur des minorités chrétiennes, et notamment les Assyro-Chaldéens et les Arméniens.
Oui, surtout ce qu'on remarque aussi à cette époque-là, qui est une époque qui charrie plein de bouleversements, c'est le manque de vision, même sur le court terme, sur ce que doit être l'avenir de ce Moyen-Orient ottoman qui se décompose complètement, qui fait l'objet d'un partage colonial entre deux puissances rivales, qui vont se livrer une âpre et venimeuse rivalité.
Le Royaume-Uni,
Dépend des populations autochtones, qu'elles soient musulmanes, hétérodoxes, sunnites, chiites, chrétiennes, druzes et même juives. Donc ça, c'est un point. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir en quoi ces minorités, pour reprendre l'expression de l'historien libanais George Corms, constituaient à cette époque de véritables machines de guerre géopolitique. C'est ce qu'on appelait la question d'Orient, qui prend source au XIXe siècle sur le sort de cet empire ottoman malade de l'Europe qui va se décomposer, qui est en plein déclin. C'est comment ces grandes puissances occidentales, la France, le Royaume-Uni, peuvent avoir des communautés clientes qui pourraient servir de tête de pont pour étendre leur influence. Donc on va avoir recours à des symboles, à des instruments. La France, son symbole à elle, sa tradition, qu'on prête, à mon avis, à tort, de fille aînée de l'Église et de protectrice des chrétiens d'Orient. C'est une idée, à mon sens, un peu chimérique qui remonte à François Ier. Donc là, on remonte encore plus loin dans l'histoire, à l'époque où François Ier va faire alliance avec les Ottomans.
En 1536,
pour contrecarrer les Habsbourgeois, enfin les Charles Quint.
Oui.
Donc, c'est de là que commence une certaine politique d'influence de la France dans l'Empire ottoman, qui se traduit par une relation de proximité avec ces communautés chrétiennes, catholiques d'abord, et puis on va étendre aux autres chrétiens. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est ça, je l'ai appris aussi dans mes recherches, en lisant notamment les travaux de Bernard Héberger, un grand historien de chrétiens d'Orient, c'est que cette instrumentalisation, elle peut se faire aussi dans les deux sens.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il est vrai que les maronites libanais aspiraient à une vraie indépendance parce qu'ils souffraient de cette politique ottomane qui les brimait. Mais il y a eu beaucoup de, il y a eu des militants chrétiens maronites libanais qui ont essayé d'un peu édulcorer, un peu grossir leur tragédie et de pouvoir profiter des ressources que pouvait leur donner la France mère nourricière et protectrice. Alors il y a des rapports de consuls français d'ailleurs très intéressants qui se plaignent justement de ces maronites.
Voilà. Qui en manquent trop.
Donc ça, c'est un truc qui, moi, je pense que c'est important parce que bon, on a tendance toujours à avoir une lecture binaire où voilà, on a les d'un côté les chrétiens exterminés qui vont demander la protection de la France. Mais s'il y a une date charnière à retenir dans toute cette séquence, c'est 1860, l'intervention militaire donc de l'armée française sous Napoléon III, qui donc un débarquement de français de troupes françaises au Liban pour protéger les chrétiens qui sont massacrés par les Druzes. Et c'est à partir de là que la France peut se targuer d'être une puissance protectrice des chrétiens d'Orient.
Les écrivains français tels Chateaubriand, Lamartine, vont jouer, selon vous, dans ce mythe de la France, fille aînée de l'Église, protectrice des chrétiens d'Orient, etc.
Oui, absolument. Enfin, c'est très, très, surtout dans le cas de Lamartine, Volney aussi. Enfin, tous les orientalistes romantiques 19e siècle qui font le voyage à Jérusalem, en Orient, vont vouloir cristalliser sur ces communautés chrétiennes les descendants des croisés. C'est qui est absolument faux.
On va retourner avec vous, Tigrane Yegavian, au génocide arménien, déjà 1915, et puis après, à la suite, à la sortie de la Première Guerre mondiale, et à tous ces traités que j'évoquais tout à l'heure, qui vont aller absolument contre l'intérêt des minorités.
Et de la France.
Et de la France aussi. Oui. Alors, déjà 1915, le génocide. L'Occident ne voit pas ce qui se passe, ne veut pas voir ce qui se passe.
En 1915, il y a quand même les informations très rapides, très rapidement, quelques mois après les premières déportations de masse d'avril, vers l'été 1915, on parle déjà d'une condamnation de la France et de l'Angleterre pour crime contre l'humanité. Enfin, le terme crime contre l'humanité, il est écrit noir sur blanc, mais il faudra attendre 1918 pour que, à Constantinople, donc l'Empire ottoman vaincu organise à la hâte des procès de responsables. Enfin, les principaux responsables ont fui en Allemagne, mais il y a quand même des jugements, des procès qui se tiennent par contumace, des pendaisons, et ça, l'historiographie turque n'en parle pas beaucoup. Oui, les puissances occidentales, elles ont la mémoire très courte en tous les cas. Toutes les promesses de bâtir un État arménien, un État kurde, une nation assyro-chaldéenne ou une grande Grèce, elles font l'objet de maintes revirements. Et puis ce qui est très frappant, c'est de voir que les Britanniques ne tardent pas à libérer de leur prison à Malte bien des responsables jeunes turcs criminels. Alors c'est comme si aujourd'hui, vous voyez les Américains qui ouvraient les prisons dans le Kurdistan, enfin dans le nord-est de la Syrie, ils libéreraient des responsables cadre de l'organisation État islamique. Puis il y a aussi l'abandon de la Cilicie aussi. Ça,
alors la Cilicie, oui, parlons-en la Cilicie. Bon, déjà, situez-nous la Cilicie, Tigrane Yegavian.
La Cilicie est une bande côtière qui se situe au sud de l'Anatolie, c'est-à-dire au sud de l'actuelle Turquie. C'est une destination touristique très prisée. Hein. Vous avez une très belle côte, les monts Taurus, une végétation, une flore, une faune magnifique. Et c'est aussi le berceau d'un royaume arménien médiéval qui a existé donc du 10e au 13e siècle. Et donc, en 1915, des Arméniens de Cilicie sont déportés, une partie est exterminée. En 1918, les Français, qui reçoivent de la Société des Nations un mandat sur ce pays, la Cilicie, ou même avec la Syrie, le Liban, organisent leur retour. Ils organisent leur retour parce qu'ils ont l'idée en tête de que ce mandat soit le futur foyer national arménien dans lequel la France pourrait avoir une influence. Et puis surtout, il faut prendre en considération que ces populations sont francophiles. Elles sont très francophiles, francophones la plupart. Sauf que ce qui se passe, c'est que la guerre n'a pas fini. Les Turcs rebelles, les nationalistes turcs, donc kémalistes, se battent contre les Français. Il les harcèle, il mène une guérilla de forte intensité. Les Arabes hachémites se battent aussi contre la France en Syrie. La France, donc, elle est dans une position de, vulnérable par rapport aux Anglais.
Et elle sort de la Première Guerre mondiale aussi.
Complètement exsangue. Voilà, complètement exsangue. Très rapidement, on voit que la France change
de cap.
De façon assez brutale, il faut le dire, puisqu'ils vont négocier en sous-main avec les Turcs nationalistes. Il y a aussi une vraie fracture, je crois, entre, d'un côté, l'état-major français qui se bat sur le terrain, qui connaît, qui comprend ce qui se passe et qui a des vrais relais avec les chrétiens, mais aussi d'autres minorités. Et puis, la diplomatie, le Quai d'Orsay, qui, lui, a une vision court-termiste, une vision, on va dire, très peu pragmatique surtout, mais surtout un certain aveuglement. Un aveuglement parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir faire la paix avec Mustapha Kemal et tirer les dividendes de cette paix en termes d'avantages commerciaux, animés par la crainte que la Turquie kémaliste tombe sous l'influence des bolcheviks. Parce qu'à l'époque, la grande peur, c'est ça.
Oui, la révolution russe a eu lieu quelques années avant. Oui.
Tout à fait. Et donc, les Arméniens vont être abandonnés de la Cilicie. Et ce lâchage va se solder par la fuite donc, des Arméniens qui restent en catastrophe. Et je crois qu'on s'en est jamais vraiment remis de cette perte de la Cilicie, puisque si on avait gardé cet État, qui aurait pu être, à mon sens, un État viable, une sorte de Liban, mais en beaucoup plus grand, vraiment en puissance 10, ça aurait été un vrai État tampon, un vrai relais d'influence aussi de la France, un exemple de coexistence pacifique. Et je crois que les Arméniens, et même titre que les Syriaques, les Assyro-Chaldéens, ne se sont vraiment jamais remis de cette perte. Et donc c'est une blessure très profonde.
Un chapitre tout à fait intéressant dans votre livre, Tigrane Yegavian, qui va probablement choquer un certain nombre de lecteurs, c'est sur la responsabilité des chrétiens. Vous estimez qu'effectivement, il ne faut jamais regarder les choses que d'un seul côté. Vous décrivez des Arméniens qui ont été naïfs, qui ont manqué de discernement, qui ont cru, par exemple, parfois dans l'idéal démocratique, j'allais dire, des jeunes Turcs qui allaient devenir leur bourreau.
Absolument. Il y a une vraie une relation presque incestueuse entre les cadres dirigeants de ce parti génocidaire, le Comité Union et Progrès, le parti jeune turc, qui est gagné par les idéaux des Lumières. Il faut savoir que la plupart...
On est à quelle année à peu près à ce moment-là?
Alors, 1908-1913.
D'accord.
1908, c'est la révolution, le coup d'État jeune turc. Les Arméniens soutiennent. Il y a une vraie fraternisation dans les rues, une vraie euphorie. L'idéal qu'on va installer un empire ottoman, multiculturel, pluriconfessionnel, où tous les citoyens seraient égaux en droit et en devoir.
Toute ils y ont cru.
Cette euphorie, savoir que quand vous avez un leader arménien qui dit que notre religion c'est la liberté, je pense qu'il le croyait vraiment, mais n'a-t-il pas une vraie naïveté, une absence de sens politique? C'est là la question. Ces gens-là, ces élites, étaient à mon sens en partie coupées de leur réalité parce qu'elles étaient aveuglées par cette idéologie des Lumières, par cette francophilie aussi. Elles étaient à Constantinople, elles vivaient à l'européenne, et puis elles fréquentaient les mêmes loges maçonniques parce qu'à l'époque, la franc-maçonnerie était bien implantée que les Turcs.
Il y avait beaucoup de jeunes de
oui,
jeunes Turcs
dans les mêmes loges. Dans les mêmes loges. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que ces Arméniens étaient à des années-lumière de penser que leurs frères allaient les emmener à l'abattoir. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Le soir de son arrestation, le leader Kikor Zorab, qui était un grand avocat arménien, un grand député ottoman arménien, le soir même, il jouait aux cartes avec son bourreau, Talat Pacha. Il était à des années-lumière de penser que Talat Pacha avait prévu son arrestation quelques heures plus tard, une fois rentré à son domicile. Alors ça, on le voit beaucoup, mais il y a une explication aussi à ça. Je pense que c'est l'absence de sens politique, puisque ces élites-là ne se sont jamais vraiment pensées en tant qu'État, en tant que parti politique, mais plutôt en tant que communauté, en tant que notabilité. Mais ce qui est fâcheux à dire, c'est que ces réflexes, ce qu'on voit, c'est cette mentalité, elle se reproduit dans l'histoire. Un exemple beaucoup plus récent, vous avez le Liban. La fin de la guerre civile libanaise est absolument désastreuse pour les chrétiens du Liban. Pourquoi? Parce que le camp chrétien s'entre-déchire.
C'est un suicide.
Un suicide. C'est un vrai suicide. Et la grande émigration, parce que les chrétiens étaient restés plus ou moins pendant les 12-13 premières années du conflit, c'est la fin des années 80, et là, il y a une émigration massive. Vous voyez, et là, je pense, ça a profondément affaibli le leadership chrétien, mais aussi toutes les forces vives de cette communauté maronites, orthodoxes et arméniennes.
Donc, elles ont, les chrétiens, enfin, en tout cas, les
sont
arméniens sont co-responsables.
Pas que, les assyro-chaldéens aussi ont péché par naïveté dans les années 1930, en croyant aveuglément aux promesses des Anglais, qui leur disaient qu'ils allaient avoir un État en l'échange de leur coopération policière dans la répression des Arabes et des Kurdes. Or, ce qui se passe, c'est que, exactement comme pour le cas des Kurdes en 2019, en 1933, les assyro-chaldéens se font massacrer massivement par des Kurdes et par des Arabes parce qu'ils ont fait le jeu des Anglais. Et donc, on voit bien à quel point l'histoire bégaye, à quel point elle se répète et qu'on ne tient pas compte des
leçons. Alors, justement, Tigrane Yegavi, on va revenir justement vers les années 2015-2019. Là encore, vous allez choquer certains de vos lecteurs quand vous évoquez la question kurde et le Kurdistan irakien, où manifestement, enfin moi c'est ce que j'ai compris, les chrétiens sont des citoyens de deuxième zone.
C'est un peu plus,
est-ce que c'est
un peu plus complexe. Je pense pas qu'on peut les traiter de citoyens de seconde zone, mais je crois qu'il y a une logique féodale de cooptation. Je crois que le terme citoyen ne peut pas s'appliquer aussi dans la réalité kurde. Il y a le protecteur, les protecteurs et leurs obligés. Je crois que plus que les chrétiens, les yézidis ont un vrai problème avec les Kurdes d'Erbil, de Barzani, la famille Barzani qui règne au Kurdistan irakien, à Erbil. Pourquoi? Parce qu'ils estiment avoir été lâchés en 2014. Ils estiment que les Peshmerga ne les ont pas protégés, les Peshmerga, les combattants kurdes, ne les ont pas protégés lors de l'avancée des djihadistes de l'État islamique. Et ils leur en veulent beaucoup. On a pu constater pas mal d'incidents lors des commémorations du génocide yézidi où les yézidis ne voulaient pas la présence des responsables kurdes à ces commémorations. On voit aussi à quel point ce pouvoir kurde est jaloux de ses prérogatives et n'entend pas accorder un espace politique indépendant aux yézidis et aux chrétiens. On les soit cooptés ou alors on est chassé ou voyez, ils ont le choix entre la coercition et la cooptation. On peut observer la même chose en Syrie, même si c'est difficile à dire dans la situation actuelle, dans la conjoncture actuelle où les Kurdes sont victimes aussi d'un lâchage et puis aussi d'une extermination qui ne dit pas son nom, enfin, en tout cas par la part des Turcs et de leurs sbires djihadistes. Mais il faut savoir qu'en 2012, lorsque la région autonome, qui n'est pas encore la région autonome, mais le nord-est syrien donc tombe sous le pouvoir des Kurdes, puisque l'armée syrienne se replie, les Kurdes du PYD, donc le principal parti fait le ménage autour de lui et n'accorde aucun espace aux multiples partis. Il y avait beaucoup de partis politiques kurdes qui ont été chassés de la région, qui sont retrouvés en Irak. Donc ça, on ne le dit pas non plus. La situation est compliquée. La démocratie est encore imparfaite. Mais je crois qu'il y a eu une vraie, un vrai romantisme, une vraie de la part de la presse internationale qui n'ont pas peut-être voulu montrer la complexité du problème kurde. C'est-à-dire qu'on s'est contenté d'images binaires où on voyait les Kurdes défendre avec bravoure cet idéal contre la barbarie djihadiste, mais on oublie qu'il y avait beaucoup de Kurdes aussi dans l'État islamique et que la bataille de Kobané était aussi quelque part une bataille entre Kurdes et djihadistes et Kurdes laïcs.
Oui, vous parlez quasiment d'une bataille, d'une guerre civile à ce moment-là.
Pratiquement, presque. Enfin bon, c'est assez troublant, bien sûr.
Alors, on va aller vers la fin de cette émission, Tigrane Yegavi, avec la diaspora. Et ça, c'est très intéressant. C'est aussi une autre partie de votre livre tout à fait passionnante. Une diaspora qui... alors, on se dit, quand la diaspora est là, c'est que c'est fini, pour le berceau, j'allais dire, originel. Mais en fait, pas du tout. Diaspora très active, la diaspora arménienne, alors aux États-Unis, au Canada, en Australie. Et qu'à partir de cette diaspora... qui a aussi des médias, enfin des lobbies, clairement, peut se construire quelque chose.
Il faut retenir l'idée que la diaspora, n'est pas forcément synonyme de dispersion, de malheur. Moi, je la vois plutôt comme une chance, car à l'heure du village globalisé, des médias transnationaux, de nouvelles l'identité évolue, elle change. Et on peut peut-être tirer profit de ces réseaux qui existent et qui sont de plus en plus actifs, ces réseaux diasporiques transnationaux qui se battent pour cette cause, qui est le maintien de la diversité des chrétiens, de la présence chrétienne yézidie dans ces régions-là et qui font un travail remarquable. Et ce travail, ces réseaux, ces solidarités qu'on voit à l'œuvre aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe, elles participent aussi à l'élaboration d'un nouveau récit. Elles participent à l'élaboration d'une prise de conscience. Et cette prise de conscience est quelque chose que je crois relativement récent. récent. À l'époque, c'était plus des réseaux familiaux, une logique partisane, mais plutôt mémorielle, plutôt tournée vers le passé. Je crois qu'il faut tourner la page, ne pas se cantonner sur le seul passé, mais se souvenir aussi et transmettre. Et voir aussi des choses qui se font, qui sont très positives, dans le cas des Assyro-Chaldéens, de France, de Suède, il y a des médias, des clubs sportifs, des télévisions, la langue sourette, l'araméen moderne, renaît. L'arménien n'est pas encore mort, je l'espère. Enfin, vous avez tout ça. Et je pense que, oui, la diaspora est une solution aussi parce qu'ils ont un rôle. Je pense que les diasporiques ont un rôle à jouer pour l'avenir du Moyen-Orient.
Et le clergé local ?
Alors, le clergé local, c'est un peu compliqué parce qu'il faut qu'il il mette son logiciel à jour. Et c'est là où il y a toute cette théorie, la théologie contextuelle qu'on ne va pas élaborer maintenant, mais cette nécessité de s'adapter au contexte. Donc, ça sous-entend une vraie formation de cadres parfaitement intégrés dans les sociétés d'accueil, les sociétés originelles, qui puissent faire œuvre de transmission, mais surtout toujours prendre en compte le contexte. Et s'il y a un message dans le livre que j'essaie de communiquer, c'est de plus voir cette question des minorités sous l'angle confessionnel. C'est-à-dire que je crois que le vrai enjeu, le vrai défi de leur avenir, c'est de séculariser cette question sous l'angle des droits de l'homme, sous l'angle de la défense de la diversité, de la dignité humaine. C'est pourquoi il est, à mon sens, un peu regrettable que cette question n'intéresse qu'une partie de l'échiquier politique français, en l'occurrence la droite, les croyants, les catholiques, les protestants, mais pas les gens qui... Alors que quand on défend d'autres causes, bon, on se demande pas la religion on s'intéresse pas à la religion des militants, vous voyez. Donc c'est un vrai enjeu de société, de promouvoir la diversité du bassin méditerranéen, de ces régions-là, de cette mosaïque menacée, car il en va aussi de notre propre démocratie.
Merci, ça sera donc votre conclusion, Tigrane Yegavian. Je rappelle le titre de votre livre, Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire, et c'est publié aux éditions du Rocher. Merci.
Vous pouvez réécouter Religion du Monde sur www.rfi.fr.
En 2015, au mois de mai, le 21, quelques jeunes djihadistes de l'État islamique, ils m'ont pris avec un autre postulant qui était avec moi. Ils m'ont porté à Raqqa. Ils m'ont prisonnier dans une salle de bain, car comme chrétiens, nous sommes des impurs. Mais ils nous ont permis d'être purs, parce qu'on prenait notre douche tous les jours, quand nous roulons, et tout ça, c'était... ça tombait bien pour nous.
Le récit de sa captivité et de son cheminement spirituel, raconté dans Un moine en otage, le combat pour la paix d'un prisonnier des djihadistes, coécrit avec Amaury Guillem et publié aux éditions de l'Emmanuel, a obtenu au printemps dernier le grand prix du prix littéraire de l'œuvre d'Orient. Mais il nous fallait attendre le passage cet automne à Paris du père Jacques Mourad pour l'entendre sur cette expérience vécue dans les geôles de Daesh qu'il relate avec pudeur. Un témoignage d'une exceptionnelle humanité et aussi d'espérance sur le futur des relations entre chrétiens et musulmans qui a bouleversé le jury du prix littéraire de l'œuvre d'Orient. Le père Jacques Mourad est un prêtre syriaque catholique originaire d'Alep. Il vit actuellement au Kurdistan irakien, comme beaucoup de réfugiés chrétiens. Avant, il vivait dans le désert syrien, au monastère de Mar Elian, à la lisière de la ville de Karyaten, non loin de Homs. Pendant 15 ans, le père Jacques Mourad a travaillé à la restauration de ce monastère du 5e siècle, qui, comme celui de Marmoussa, accueillait visiteurs chrétiens et musulmans. Comme beaucoup d'autres symboles chrétiens en Syrie, le monastère de Mar Elian sera détruit le 21 août 2015 par l'État islamique. Père Jacques Mourad.
Ce lieu était un lieu de rencontre entre les musulmans et les chrétiens. Alors, ces choses n'ont pas plu les djihadistes de l'État islamique parce qu'ils considèrent tout ça comme une hérésie. Pour ça, ils sont venus. Alors, pendant 3 mois, nous étions prisonniers dans cette salle de bain. Après, il nous a transférés près de Palmyre, après qu'ils ont pris 250 chrétiens de mes paroissiens en otage. Ils m'ont transféré là-bas avec eux. On est restés ensemble pendant 25 jours. Après, il est arrivé une déclaration de calife Baghdadi qui nous permettre de retourner dans nos maisons, mais sans le permis de sortir de Qaryatayn, de la ville. Alors comme ça, on est retourné, mais nous étions tout le temps sous les bombardements des avions, soit syriens et après russes, qui étaient tellement dangereux, qui a fait beaucoup de morts parmi les civils. Tout ça, il m'a convaincu de fuir. De toute façon, je serais mort. Si eux, ils ne m'ont pas égorgé, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que ça, c'est un miracle aussi, parce que moi, je n'ai pas réagi. Je n'étais pas nerveuse. Je n'étais pas. J'ai essayé de garder le silence. Comme Jésus, comme il dit dans l'Isaïe, comme un agneau a été mené à la tuerie, il n'a pas ouvert sa bouche. Cet verset que j'ai rappelé toujours m'a beaucoup aidé à garder mon acte de paix intérieure, qui était un don par la Vierge Marie.
Votre récit, le récit qui vous a valu donc le prix de l'œuvre d'Orient, est un récit extrêmement fort dans la mesure où vous racontez de l'intérieur votre captivité, cette forme de résistance spirituelle que vous allez opérer pour pouvoir tenir, avec la prière notamment. Mais aussi, il y a tout ce contact, je dirais, tout à fait particulier avec vos geôliers, en ce sens que et c'est ça l'immense don de votre livre, Père Jacques Mourad, en ce sens que vous allez quasiment les regarder avec bienveillance. Ça, c'est une forme de conversion rare, inouïe.
Pour ça, moi, je considère cette chose comme un don de Dieu et comme un fruit du cheminement spirituel que j'ai vécu durant toutes les années de ma vie consacrée. C'est le don du désert où j'ai vécu toute ma vie presque, et c'est le don de la Vierge Marie. Alors, à la fin, ce qui m'a convaincu, la lecture de la Bible, la méditation des textes bibliques, elle aide beaucoup dans les moments difficiles pour ceux qui croient à Dieu.
Et il y a ce moment très fort où, alors que vous venez, on peut le dire, d'être torturé, puisque vous êtes battu à un moment donné par des tuyaux de caoutchouc, hein, c'est ça, et qu'en même temps, on vous menace avec un couteau de vous égorger, vous avez cette phrase « Mon Dieu, prends pitié de moi ». Et là, vous dites « ça a arrêté la main de votre bourreau ».
Exact. Et là, moi, je pense qu'il y avait vraiment une intervention claire de Dieu. Parce que cette parole, « Seigneur, prends pitié de moi », a vraiment bouleversé ce djihadiste saoudien qui a mis le couteau sur mon égorge. Je pense qu'en ce moment, il y avait quelque chose qui est passé. Parce que lui, il m'a jeté sur terre, il est retiré derrière. C'est comme un tremblement de terre, on peut dire, mais pas concrète, mais spirituel. Je pense que ce parole, pour les musulmans, signifie beaucoup. Et je comprends tout ça, parce que pour eux, quand ils disent à tous les actes, tout le temps, « Bismillahirrahmanirrahim », au nom du Dieu clément et miséricordieux, ce parole prend tout le sens de leur acte, de leur vie, de leur donne la sens. C'est vrai que après ils ne pratiquent pas, ils ne le vivent pas, mais c'est une phrase qui touche profondément les musulmans.
Et à ce moment-là, vous commencez une sorte de grande réflexion, en tout cas c'est ce que vous confiez dans le livre. Vous avez même presque de la commisération pour eux. En ce sens que vous dites, voilà, ils sont totalement tiraillés, hein, totalement tiraillés. Il y a une part d'humanité qui reste en eux, mais ils sont totalement tiraillés, ils sont enfermés dans cette lecture voilà, folle des textes qu'ils ont évidemment interprétés dans le sens de l'extrême violence.
Là, on peut comprendre combien notre monde, qui est plein de changements profonds, radicaux, soit sur le niveau moral, soit sur le niveau politique, et surtout l'influence de la globalisation, qui a une puissance extrêmement forte contre l'humanisme, contre notre humanité, contre le sens de notre existence. On n'est pas créé pour adorer l'argent ou pour vivre pour notre plaisir. On est créé pour vivre l'amour, pour aimer les uns les autres. Alors, mais tous ces chemins que notre monde dirigeait vers, il utilise tout, même la religion. Et ça, c'est tellement dangereux. C'est déjà commencé bien avant, mais et je crois que nous sommes aujourd'hui invités à révolter contre cet désir, contre ce dieu de l'argent, et retourner au vrai dieu.
Concernant toujours ces djihadistes, je lis un bout de paragraphe. « Je suis alors saisie de pitié pour ces combattants du groupe État islamique. Ils sont libres d'aller et venir et pourtant ils me semblent emmurés dans une prison intérieure bien plus sordide que ma salle de bain. »
Exact. Moi, je pense que pas seulement eux. En effet, beaucoup de monde sont prisonniers par leurs idées, leurs intérêts, et ça me fait triste, me fait penser, mais comment Dieu veut sauver ces gens? Alors, selon mon expérience avec ces djihadistes, je pense que le seul moyen, c'est de retourner à rencontrer le côté humain, le côté bon dans ces gens.
Les réhumaniser, en fait.
Exact.
Et d'ailleurs, vous dites, après, un peu plus loin, « Je décide de ne plus enfermer ces gens-là dans leurs textes et dans leur histoire, qu'il serait injuste de réduire à ces expressions les plus problématiques. » Tout en précisant que, là encore, vous revenez effectivement sur... vous parlez même d'un drame intérieur qu'ils vivent. Vraiment, vous le pensez?
Eh oui, bien sûr, parce que... Et tu t'imagines que ces gens, ils sont contents de leur choix et de leur...
Ils semblent afficher une toute puissance. Ils semblaient afficher une toute puissance au moment.
Oui, mais imagine un jeune qui était fier de porter une arme, de sentir qu'il est puissant. Mais après un certain temps, quand il reste seul... avec soi-même, c'est sûr qu'il y a ce côté moral qui revient et qui lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Où tu vas? Qu'est-ce que tu veux ?» C'est vrai qu'il y a le but de réaliser un État islamique selon la volonté de Mohammed, selon le désir de Mohammed, mais après, pratiquer la violence, ce n'est pas quelque chose qui est complètement choisi par, par l'individu. C'est quelque chose imposé, on peut dire. Et si les, c'est des gens ils acceptent d'entrer dans cette tourbillon par force, mais ce n'est pas par désir.
Ça peut être par choix. Pour certains, c'est quand même par choix.
Certains,
certains ont même fait le voyage de France, mais de oui, Belgique, etc.
Oui. Mais quand moi, je parle à partir de des rencontres que j'avais, à partir des jeunes que j'ai rencontrés. Souvent, surtout les Syriens, ils ont été forcés pour suivre le chemin des djihadistes de l'État islamique, parce que sinon ils devaient mourir. Ou bien ils s'intègrent dans leur mouvement, ou bien ils vont être condamnés à la mort. Et comme ils n'ont pas le choix de fuir, alors ils n'ont pas un autre alternatif.
Vous voulez dire entre Bachar et les djihadistes ?
Par exemple, ou fuir ailleurs, parce qu'ils ne trouvent pas le chemin pour, comme les autres, d'évader. Alors, ils se trouvaient au milieu de ça.
Vous dites que vous avez fait tout un chemin, effectivement, par rapport à l'islam, vous, dans votre éducation, du fait aussi de votre histoire familiale, puisque au niveau des grands-parents, il y a eu, qui étaient en Turquie, hein, une partie de la famille a pu être massacrée hein, par les Turcs. Donc, vous vous teniez à distance. Et vous dites que, finalement, vous avez, en vous, opéré tout un changement à l'égard de l'islam et des musulmans.
Oui, et ça, c'était grâce à l'accompagnement spirituel que j'ai fait avec le père Paolo Dall'Olio.
Qui est donc qui a disparu, hein, oui. Le père de Marmoussa.
Oui. Et aussi cette vie contemplative que j'ai choisie dans le désert de Marmoussa.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris à l'égard des musulmans ?
Parce que là, c'était tout le temps que j'ai rencontré les musulmans. Et j'ai rencontré la beauté de leur cœur et de leur humanité. Et, j'ai découvert qu'il y a vraiment un espace spirituel assez large, assez fort aussi dans l'islam. Ce n'est pas seulement le christianisme qui porte des expériences spirituelles, mais aussi les autres religions et surtout les musulmans.
Bon, ce que l'on peut retenir de votre livre, hein, c'est une de vos phrases d'ailleurs, « La prière et la compassion peuvent sauver le monde de la barbarie ».
Exact. Ça, c'est ce que je crois, parce que ça, c'est... si moi, je suis là maintenant, c'est grâce à la prière et à la disponibilité de donner soi-même.
Et aussi grâce à des hommes, à vos geôliers, qui finalement, quand même, vous ont laissé la vie sauve.
Oui, mais...
Parce qu'ils ont été touchés par certaines de vos phrases et votre attitude de bienveillance, précisément.
Moi, je crois qu'ils ont été touchés par ça et par mon histoire, par tout le bien que j'ai fait. Avant, durant les années de la guerre, avec leurs parents, avec les musulmans de Qaryatayn et de Mihin et Houarin, les villages autour, quand j'ai accueilli beaucoup de réfugiés, grâce à l'œuvre d'Orient et des autres, on a pu restaurer beaucoup de leurs maisons qui étaient volées, bombardées, brûlées en 2013-2014. Alors tout ça, je crois qu'eux, ils ont retenu. Ils ont retenu aussi ma position de ne pas porter les armes comme chrétien contre nos voisins et nos ancêtres.
Votre âme, finalement, c'était la prière et la compassion.
Exact.
Et on se quitte sur les paroles du père Jacques Mourad. Son livre « Un moine en otage, le combat pour la paix d'un prisonnier des djihadistes » coécrit avec Amaury Guillem est publié aux éditions de l'Emmanuel. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Apolline Verlon-Raison vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.